l'équipe de louange était ici 8 heures ce matin, Jean, à peu près 8 louanges, 8 heures. Eh bien, quand vous serez en train de vous promener quelque part tout près de la rivière, en train de manger une glace, eux, ils sont là en train toujours de chanter pour le Seigneur cet après-midi quand il fait chaud. Tu vas voir la tête de Jean, il va avoir la tête d'un homme de 90 ans au lieu d'un homme de 60 ans comme maintenant. Il ne m'écoute pas. Excuse-moi. Non, content de vous voir ce matin. Alléluia! Je vois quelques têtes des hommes ce matin, qui est comme Jean-Bruno là, un peu mieux qu'hier, ouais, parce qu'on a fait avec le ministère des hommes et les enfants, on a fait l'acrobranche. Vous auriez dû nous voir là, dans les arbres. Le pasteur Christophe et moi, au troisième niveau sur quatre, on se croyait vraiment, vraiment des mecs, Jean. Et puis je regarde derrière moi, et une fille de 8 ans, une fille de 9 ans qui était, allez, allez. Je dis, Christophe, pas plus vite. Hein. Alors, non, mais c'était super, un moment de communion fraternelle excellent. Et je remercie le Seigneur pour les frères, comme nous avons et des sœurs qui sont venus aussi. Amen. Alléluia. Alors, juste avant que je prêche, j'aimerais bien faire une petite page publicité. J'écris chaque semaine un petit article qui s'appelle « Tâches de café ». Est-ce que vous connaissez des tâches de café, certains d'entre vous? Alors, j'aimerais bien vous donner une occasion de vous abonner, si vous voulez. Ils sont gratuits. Si vous êtes capable de me donner votre adresse email et si vous êtes capable de l'écrire lisiblement, parce que je préfère que ça soit écrit en français ou en anglais, parce qu'il y en a beaucoup qui écrivent en russe, en ancien égyptien, je ne sais pas, hébreu, mais je n'arrive pas à le lire. Alors, si vous pouvez l'écrire lisiblement, on va le faire. Alors, on va faire comme ça, parce que c'est un peu compliqué, mais j'ai 3 livres d'inscription. Alors, je commence l'un de ce côté-là. Si vous voulez, vous donnez votre nom, votre email. Je commence le deuxième ici, et vous passez à votre voisin après, et puis je commence le troisième ici. Vous remarquez que tous les livres, il y a un stylo avec, et j'attends à la fin qu'il y ait un livre, un stylo avec tout, parce que je ne vais pas vous dire ce qui vous arrivera si vous me piquez mon stylo, mais ça ne va pas être beau. Hein. Pour vous les visiteurs, je plaisante, excusez-moi. Lèvez-vous, s'il vous plaît. Deutéronome, le texte pour aujourd'hui, Deutéronome chapitre 6 au verset 20. Deutéronome chapitre 6 au verset 20. Et avant que j'oublie, c'est pasteur William Campbell derrière là, qui est le pasteur de service aujourd'hui. Si vous avez besoin de parler avec un pasteur, il est disponible. Okay? Toute la sagesse du Seigneur est avec lui, ou bien une grande partie. N'est-ce pas? Deutéronome chapitre 6 au verset 20. Lorsque ton fils te demandera un jour, que signifient les instructions, les prescriptions et les règles que l'Éternel, notre Dieu, vous a données? Tu lui diras, nous étions esclaves de Pharaon en Égypte, et l'Éternel nous a fait sortir de l'Égypte par sa main puissante. L'Éternel accomplit sous nos yeux de grands miracles et prodiges, porteurs de malheur pour l'Égypte, pour le Pharaon et pour toute sa maison. Il nous a fait sortir de là, pour nous emmener dans le pays qu'il avait juré à nos ancêtres de nous donner. Il nous a fait sortir de là, pour nous emmener dans les pays qu'il avait juré à nos ancêtres de nous donner. Amen. Juste avant de reprendre votre place, tournez vers deux voisins sans rien dire, et donne-lui un grand sourire, au moins 32 dents, si vous en avez autant. Certains, ils ont 35 ou 36, je crois. Alors, vous pouvez reprendre votre place. Cette semaine, j'ai vu une amie sur Facebook a écrit ceci. Et ce n'est pas une amie d'ici, heureusement, mais elle a écrit, « Aujourd'hui, ça ne va pas du tout. Cette semaine a duré une éternité et je veux seulement rentrer à la maison. Mon mari me manque, mon chien me manque, mon lit me manque et ma mère me manque. » Encore un jour, seulement un jour. Aïe, aïe, aïe. Alors, nous avons tous des jours comme ça, n'est-ce pas? Mais vous savez quoi? Il y a des gens qui ont des vies comme ça. Il y a des gens qui ont des vies comme ça. Ils sont sortis du péché. Ils sont sortis des griffes de Satan. Ils sont nés de nouveau. Mais ils ne sont pas pleinement entrés dans la promesse de Dieu. Ils tournent dans le désert toute leur vie. Et je crois que Dieu nous donne une idée ici, quelque chose de très important. Dieu ne nous a pas seulement fait sortir du péché pour tourner en rond, pour être misérable. Dieu nous a fait sortir pour nous faire entrer. Dieu nous a fait sortir pour nous faire entrer. Et beaucoup de chrétiens, ils loupent ça. Je suis content, et vous pouvez m'afficher le premier point là si vous voulez, je suis content que le Seigneur m'a fait sortir un jour du péché. Dans cette illustration que nous avons lue, c'est une image de l'Ancien Testament. Pharaon et Égypte, ça représente notre vie d'alors, notre vie passée, que nous n'avons pas connu le Seigneur Jésus-Christ. Mais puis, un jour, Jésus est venu. Oh, j'ai entendu deux amens pitoyables. J'ai dit, un jour, Jésus est venu. Alléluia. Il nous a fait sortir du péché. Ah, je me souviens, moi, j'étais petit. Certains d'entre vous, vous connaissez mon histoire, mais ma grand-mère, c'était une personne clé dans ma vie. Ma mère, elle avait des problèmes de nerfs très, très forts. On habitait vraiment loin dans la campagne. Et chez nous, je dois avouer que ce n'était pas toujours beau, hein, parce que ça criait beaucoup, beaucoup de dépression, beaucoup de frustration chez maman. Et ça retombait sur nous les enfants, des fessées. Oui, on a eu, mais des fois, je crois que c'était presque plus que les fessées. Et ça faisait qu'il y avait une certaine ambiance dans la famille. Des fois, quand maman était bien, c'était super bien à la maison, mais quand elle n'était pas bien. Et ça vous marque. Mais le Seigneur, il a mis une personne dans ma vie qui m'a fait vraiment connaître le Seigneur Jésus-Christ. C'était ma grand-mère. Moi, j'étais le premier petit enfant de ce côté-là de la famille. Et c'était la mère à un moment. Et grand-mère, on l'appelait mamie, mamie, elle a dit à maman, elle a dit, vous emmenez David chez moi, moi je vais l'emmener à l'église. Alors, il faut dire que si grand-mère le disait, il fallait le faire, parce que sinon, elle allait prier et vous allez le faire de toute façon. Alors, pour gagner un peu de temps, faites-le. Et c'était comme ça, grand-mère, c'était une femme, qui j'ai jamais ressenti, je crois, tant d'amour dans une personne que dans une grand-mère. Et je me souviens combien de fois, quand j'étais enfant là, à la maison, le genre de grand-mère, elle m'a raconté des histoires du Seigneur Jésus. Elle m'a raconté, moi j'aimais bien les histoires de David et Goliath. Vous savez pourquoi j'aimais David? Parce qu'il avait un beau nom, David. Et j'aimais bien l'histoire de Daniel et le fossé de Lyon, tout ça. Et je me souviens d'avoir entendu ça. Même avant de me souvenir d'une prédication, parce que j'avais un truc, grand-mère nous emmenait à l'église. J'aimais bien l'école de dimanche. Mais là, à l'époque, après l'école de dimanche, nous allions dans la réunion avec les grands. Et j'avais une manière de faire, parce qu'on avait de la place sur les bancs. Alors, je tenais le coup jusqu'à ce que le pasteur commence à prêcher. Et puis, je me suis allongé sur le banc pour un peu rattraper le sommeil de la semaine. C'était bien jusqu'à ce que grand-mère me dise, non, réveille-toi. Mais je dois dire que des fois, ça me passait au-dessus de la tête. Mais ce qui n'est pas passé au-dessus de la tête, c'était vraiment l'amour de grand-mère. Combien de fois? Ce n'était pas facile pour grand-mère et grand-père. Parce que, enfin, on habitait loin de l'église, loin de grand-mère. Et c'était elle qui nous aidait quand on était tout petit pour nous habiller, pour nous préparer. Je me souviens d'être dans la voiture grand-père, là, en chemin vers l'église. Et grand-mère, elle me dit, David, tu as lavé derrière les oreilles. Alors, il faut dire, Jean, derrière l'oreille, pour un garçon, c'est un endroit très, très sensible. On peut lui faire mal si on ne fait pas attention. Hein. Et sérieusement, est-ce que quelqu'un n'est jamais venu chez toi, à l'église, pour regarder derrière ton oreille, pour voir si tu as lavé derrière? Tout le monde son fils, sauf les mères et les grands-mères. Les garçons, c'est rien du tout. Hein? Ils sont contents si c'est ça. Mais les mères, les grands-mères, elles ont toujours peur qu'une autre mère et grand-mère voient derrière l'oreille de leur petit enfant et disent, ah, oh, regarde, quelle mère, quelle grand-mère. Et tu sais ce qu'elle a fait? tu sais ce qu'elle a fait, ma grand-mère, là dans la voiture, parce qu'il n'y avait pas d'eau, et je me croyais en sécurité, parce qu'elle n'avait pas d'eau. Tu sais ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait, vous les femmes? Ouais, vous aussi, vous avez souffert, les hommes. Aïe, 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 j'ai détesté ça. Surtout quand elle était enrhumée. Mais... mais combien de fois, le dimanche après-midi, après le match de football, est passé à la télévision, grand-père sort pour un peu se dégourdir les jambes, et grand-mère profite pour aller dans la chambre coucher, pour chercher la face de Dieu, pour préparer son cœur pour la réunion du soir. Mes amis, je vous dis, ça remonte il y a plus de 50 ans. Mais si j'écoute très très bien, je suis tranquille, j'écoute toujours la voix de grand-mère, mamie, là en train de crier vers le Seigneur, en train de pleurer vers le Seigneur. Ça m'a marqué, jusqu'au point quand j'avais 7 ans. Un matin dans la réunion, on ne croit pas que les enfants ils font grand-chose, j'avais 7 ans. Et je me suis approché, et ce jour-là, j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ. Et ce jour-là, il m'a fait sortir de l'Égypte. Il m'a pardonné mes péchés et mes péchés. Il a fait de moi une nouvelle création. Mes amis, ma vie a commencé à l'âge de 7 ans, parce que c'est là que j'ai connu Jésus. Est-ce que vous connaissez Jésus? Vous êtes aussi sorti du pays d'Égypte? Votre grand-mère aussi, elle a lavé derrière. Non, ça c'est une autre histoire. Mais ce qui est dommage, ce qui est tellement dommage, je trouve que beaucoup de chrétiens sont comme les gens d'Israël ici. Ils sont sortis du pays, ils font le traversée du désert, mais au lieu de traverser le désert, ils tournent en rond dans le désert. Parce que Dieu ne vous a pas sauvés pour rester dans le désert. Bien sûr, il y a des moments de désert pour tout le monde, pour tous les chrétiens. Mais ce n'est pas de ça que je parle. Parce que les moments d'épreuve, ça nous fortifie. Les moments d'épreuve, ça nous forme. Mais Dieu ne nous a pas créés pour rester dans le désert. Il nous a emmenés, il nous a fait sortir pour traverser le désert, pour entrer dans la plénitude de la promesse de Dieu. Mais on voit beaucoup de chrétiens, ils sont dans le désert. Ils sont là, ils sont frustrés. Ils sont prisonniers des passions des chrétiens. Ils croient seulement ce qu'ils voient. Et s'ils ne voient pas ce qu'ils veulent, vous savez ce qu'ils font? Ils rouspètent. Ils rouspètent. Alors, je crois qu'on a une petite vidéo maintenant qui parle des gens qui rouspètent des fois. Mais vous savez, il y a, l'homme, il a dit qu'on on va voir.
C'est que des rouspéteurs qui sont jamais contents, qui pleurent tout le temps. Ça ne va plus du tout, c'est un peu inquiétant. Y a pas un peu de vent, il fait beaucoup trop doux. Et voilà les moustiques qui viennent et qui nous piquent. Avant ils piquaient moins, ou bien y en avait moins. Trop de soleil et ça brûle la peau, ou bien on se met à l'ombre et il fait pas très chaud. Dire qu'en plein été va falloir s'habiller, manquerait plus que la pluie arrive avant midi. C'est que des rouspéteurs qui sont jamais contents, qui pleurent tout le temps. C'est que des
Alors, est-ce que vous connaissez des personnes comme ça? Est-ce que vous l'avez vu dans le miroir? Oh! C'est l'homme, il a dit, vous savez, quand je me suis marié avec ma femme, elle avait la taille d'une guêpe. Maintenant, c'est une guêpe de taille. Excusez-moi. Mais il y a des hommes qui sont des guêpes de taille aussi, n'est-ce pas, les sœurs? N'est-ce pas, les sœurs? Pas le vôtre, mais des autres. Hein? Mes amis, notre bouche nous plante. Notre bouche nous fait tourner dans le désert. Oh, mon mari! Oh, ma femme! Si j'avais seulement un mari comme moi, quand je serais content! Et si vous saviez, cette femme, elle vous donnera son mari avec joie! Parce qu'il est nul, lui! Mais pour toi, il est parfait. Alléluia! Amen! Et la même chose avec nos femmes. Nous, les hommes, nous voulons une femme belle comme Sharon Stone, une vedette de cinéma, remplie de l'esprit. Et vous êtes regardé dans le miroir. Vous croyez que Sharon Stone, quand vous passez, elle va regarder? Non. Et on rouspète, on pense, on dit toutes sortes de choses. Mes amis, arrête avec ça! On se plaint de l'église, on se plaint de pasteur, on se plaint de la clim, on se plaint de la chaleur, on se plaint. Attends! Attends! Vous tournez dans le désert! On a pris des fois par la pornographie, on est pris par une langue qui critique des gros mots, de toutes sortes de choses. Ce n'est pas pour nous les chrétiens. Dieu ne nous a pas sauvés pour ça. Dieu ne nous a pas sauvés pour tourner dans la misère. Bien sûr, il y a des moments où ça est si difficile. Bien sûr, il y a des moments comme pour mon ami tout au début du message. Mais ce n'est pas le destin des enfants de Dieu. Ce n'est pas le destin des enfants de Dieu. Vous êtes réveillés? Dieu ne vous a pas sauvés pour tourner dans le désert, pour enfin être enterrés. Mais Dieu vous a sauvé pour vous faire entrer dans toute sa bénédiction, dans toute la puissance et la plénitude du Seigneur Jésus-Christ. Êtes-vous là? Êtes-vous là? Alléluia! Est-ce que vous êtes pleinement entré? Vous savez, j'insiste un moment, parce que je crois que j'ai même inventé un mot pour ce message-là. Je vais peut-être le présenter à l'Alliance française après. Mais le mot, c'est la rouspétise. Alors, je ne sais pas si c'est masculin ou féminin, mais puisque c'est moi qui l'invente, c'est féminin. Et ça n'a rien à faire avec les hommes et les femmes, OK? Parce que j'aimerais dire, quand même, c'est la rouspétise. Il y a des gens qui sont champions de la rouspétise. Mais mes amis français, c'est pas moi qui l'a dit, mais mes amis français, et ils disent, vous savez, les Français, ils sont des grands rouspetteurs. C'est pas moi qui le dis, mais je constate, c'est vrai. Et puis, je suis ici tellement longtemps que si je ne fais pas attention, je suis là en train de rouspetter avec les autres. Mais mes amis, je vais vous dire quelque chose. Ça peut vous tuer. Vous plaindre tout le temps, ça peut vous tuer. Parce que vos oreilles, et en plus, votre cœur, entend ce qui dit votre bouche. Et alors, je sais qu'il y a des gens qui ont exagéré, mais il y a un lien direct entre le cœur et la bouche. Et à mon avis, presque entre la bouche, ça rentre par l'oreille et ça rentre dans le cœur. Il y a un lien vicieux ou un lien vertueux entre ton cœur, ta bouche, ton oreille et ton cœur. Et même, tu peux te décourager toi-même avec les paroles de ta bouche. Pas seulement ça, mais voilà mon mot. Voilà, la rouspétise, c'est une maladie communicable. C'est une maladie communicable parce que vous infligez ça à votre entourage. Et bientôt, ce n'est pas seulement vous qui rouspétez, mais c'est votre femme, c'est vos enfants, c'est les autres. Même à l'église, oh, tu sais, aujourd'hui, je trouvais que le message était un peu trop long. Je ne dis pas qu'on n'a pas une opinion. Nous avons une opinion. Il y a une place pour si vous avez un problème avec quelque chose que le pasteur ou quelqu'un dans l'église a dit, vous savez ce qu'il faut faire? Allez voir le pasteur. Alléluia! Et si vous n'avez pas le courage de faire ça, ferme la bouche. Ouais, alléluia. Je trouve que... Est-ce que Dieu... L'issue de sortie, il est où? J'ai oublié. Ben, je vais le dire quand même. Tu sais, je trouve qu'il y a des hommes, ils sont fâchés avec leur femme, mais ils ont peur de leur femme. Alors, ils viennent à l'église et ils critiquent tous les autres. Ils aimeraient bien critiquer leur femme, mais ils n'osent pas. Alors, ils critiquent au travail. C'est comme j'ai entendu une fois. J'ai vu un petit dessin. Et c'était un homme qui allait partir pour le travail. Et sa femme était enrhumée. Il allait lui donner un bisou avant de partir. Il dit, non, je suis enrhumée. Il ne faut pas me donner un bisou. Alors, lui, il était offensé. Et ben, il allait au travail. C'était le patron. Et toute la journée, et tout le monde, vraiment, il tapait dessous avec ses paroles. Il était difficile. Et puis, ils reviennent après le travail, l'après-midi. Et là, elle était là. Elle a dit, ah, chérie, je vais beaucoup mieux maintenant. N'es-tu pas content que je ne t'ai pas donné un bisou, tu aurais pu attraper la rhume. Mais il a dit, elle a dit, à partir de ça, tout le monde au travail, ils auraient aussi attrapé. Il dit, bon, quand même, ils l'ont attrapé de toute façon. Hein. Pourquoi? Parce qu'il tapait toute la journée. Attention, quand on rouspète, quand on se plaint, quand c'est seulement, c'est une maladie. C'est une maladie. Quel est le langage? Quel est le langage de celui qui est entré dans le pays? C'est la louange. C'est les actes de reconnaissance. On est en train de louer le Seigneur Jésus-Christ. Tu dis, David, ce n'est pas facile ça. Est-ce que j'ai jamais dit que c'est facile d'entrer dans le pays? Vous savez, notre problème, surtout nous, les gens de point de vue pentecôtiste, charismatique, nous voulons que le Seigneur, il solutionne tous nos problèmes avec un pouf, la baguette magique. J'ai un problème d'argent, pouf, waouh, mon porte-monnaie est plein. J'ai un problème au travail avec une personne, pouf, la personne est gentille. J'ai un problème avec mon mari, pouf, 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 pouf. Certains sont plus difficiles que les autres, les bagues, mais ça marche. On veut que tout part avec un coup de baguette magique. Non. Il y a, mes amis, attends, il y a dans le pays de promesse, il y a des géants qui squattent votre héritage. Nous voulons venir et que le pasteur prie pour nous, on tombe par terre et on se lève et on est des champions pour Christ. Excuse-moi, ça ne marche pas comme ça. Hein? Au moins une personne est d'accord avec moi. Oui, cette sortie de secours. Non, mais excuse, je ne méprise pas ça. Mais ce n'est pas comme ça que Dieu marche pour la plupart. Parce que là, si le Seigneur te donne tout, sans une bagarre, sans le conflit, que sans la guerre même, toi, tu vas devenir une petite enfant pour le Seigneur. On aime bien ça. Oh Seigneur, on aime bien tes câlins. On est tout prêt. Là, Seigneur, donne-nous la biberon. Le petit, il aime bien la biberon, n'est-ce pas? Et quand il a 20 ans, tu vas lui donner le biberon? C'est lui qui va te donner le biberon. Quand tu seras vieux. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, mais nous voulons que le Seigneur nous donne la biberon. Et il nous change des couches. Et là, quand on pleure, oh chérie, ne pleure pas. Oui, 3 heures le matin, on pleure, oh chérie, ne pleure pas. Et vous savez, je crois qu'avec les bébés en Christ, Dieu le fait. Mais si Dieu regarde dans la poussette et le bébé pousse une barbe et un mégot entre les dents, ça risque d'être la porte. Mais c'est vrai ou non? Nous voulons que Dieu nous donne tout. Il nous sert comme un petit. Dans le nom de Jésus, pouf! Dans le nom de Jésus, pouf! Non! C'est une guerre. Il y a des géants dans le pays. Moi, j'aime bien le vieux Caleb, là. Lui, il a, quand le peuple, 40 ans auparavant, ils avaient peur d'entrer dans le pays. Caleb a dit, non, nous pouvons le faire. Et lui, il a dû tourner 40 ans dans le désert avec une bande de rouspetteurs jusqu'à ce qu'ils meurent tous. Mais le vieux, il est là, les cheveux blancs, le barbe blanche. Mais là, quand il s'agissait d'héritage, il venait à Josué. Il dit, Josué, tu te souviens de ce que Moïse m'a dit? Il a dit, cette montagne, Hébron, est à moi. Donne-moi cette montagne. Et les autres disent, oui, donne-le-lui, à mon avis. Pourquoi? Parce qu'il y avait des géants. Mais Caleb, il s'en fichait. Il a dit, c'est ma montagne et je vais la prendre. Je crois qu'il y a des montagnes que seulement les vieux sont capables de prendre. Alléluia! Amen! Et il y a des géants comme Goliath que seulement les jeunes sont capables d'abattre. Si on est jeune et on est vieux, on est au milieu. Dieu a un pays de promesses pour chacun de nous. Mais mon ami, il faut sortir de ce désert. Il faut arrêter de tourner en rond. Il faut briser par la puissance de Jésus ce pouvoir de péché dans ta vie. Il faut briser cette langue méchante. Il faut briser cette attitude de rouspéter tout le temps. Il faut briser cette attitude. Je ne crois que ce que je vois. Qu'est-ce qu'on fait? Comment va-t-on entrer dans le pays? Alors d'abord, il y a une prise de conscience. Quand enfin vous en avez marre d'en avoir marre, peut-être vous allez faire quelque chose. Amen? Quand vous en avez marre d'en avoir marre, peut-être on va faire quelque chose à ce moment-là. Mes amis, si vous voulez tourner dans le désert, vous tournez en rond assez longtemps que vous allez faire des pistes assez profondes que quand vous mourrez, on va jeter un peu de sable sur vous et c'est tout. Mais ce n'est pas comme ça que je veux mourir, moi. Moi, je veux tout ce que Dieu a pour moi. Je veux la paix que le Seigneur m'a promis. Je veux la joie que le Seigneur m'a promis. Je veux l'amour que le Seigneur m'a promis. Je veux vraiment être un guerrier qui fait quelque chose, que ma vie compte pour quelque chose. Je ne vis pas seulement pour moi-même. Je ne vis pas seulement pour finir dans quelques années au rive d'une rivière en train d'attraper quelques poissons. Je n'ai rien contre des poissons, mais je peux attraper assez de poissons dans 2 heures pour me tenir pour tout un mois. J'ai autre chose à faire. Les poissons que je veux attraper, ils s'appellent Jean et Jacques et Gilles. Et je ne sais pas, je veux Jésus dans ma vie et je veux qu'il agisse par moi. Et vous aussi, vous n'avez pas marre de tourner en rond. Vous n'avez pas marre de regarder votre nombril et vos petits problèmes et de pleurer et faire des jérémiades toute la journée. Est-ce que vous voulez vous lever pour prendre le pays? D'abord, il faut une prise de conscience. Deuxièmement, il faut chercher la puissance de Dieu. Parce que toi, tu ne peux pas. On dit, oh, tu sais, pasteur, j'ai fait de mon mieux. Tu fais de mon mieux, ce n'est pas assez. Le mieux que tu peux faire, ce n'est pas assez. Ce n'est pas assez. Parce que la foi vient un pas au-delà de ce que toi, tu es capable de faire. Une église qui a une vision, elle est capable d'accomplir, c'est une église qui n'a pas de vision. Un chrétien qui a une vision pour le Seigneur, qu'il est capable d'accomplir, ce n'est pas une vision qui vient du Seigneur. C'est seulement la sagesse humaine. Et quelque part, il ne faut pas être bête non plus. Mais je crois que Dieu nous donnera un pays assez grand et assez large que sans sa puissance et sans Jésus-Christ agissant de notre côté, nous n'arriverons jamais. C'est effrayant, David. Oui, je sais. Oui, je sais. Oh, je me souviens. Tout au début de notre ministère, avant de venir ici, nous étions pasteurs au Texas. Et là, le Seigneur avait béni notre église. J'étais content, mais il y avait quelque chose qui tournait en moi. Et on sentait que le Seigneur voulait qu'on parte. On ne savait pas exactement où, mais puis, d'abord, c'était au Luxembourg. Mais avant de partir là-bas, on avait dit oui, Seigneur, on ira. On avait pris les pas pour quitter notre église là-bas, pour venir en Europe. Et je me souviens, avant de quitter l'église, un jour, j'étais là dans mon bureau. Et j'ai dit au Seigneur, parce que tout d'un coup, j'ai commencé à réfléchir. J'ai dit, David, qu'est-ce que tu fais? Tu es bête ou quoi? Vous savez, quand tu prends le pays de promesses, des fois, c'est effrayant. C'est effrayant. Et là, et je crois que c'était le diable ou David qui m'a parlé, parce que la voix, c'est presque la même des fois. Mais la voix me dit, mais toi, tu vas parce que le Seigneur t'appelle, mais tes enfants, parce que nos enfants étaient petits à l'époque, 7 et 5 et 4, quelque chose comme ça, eux, ils vont parce qu'ils sont obligés, ils sont avec vous. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? L'école, qu'est-ce qu'ils vont faire pour l'école? Parce que là, au Luxembourg, ils parlent 3 langues. Alors, eux, ils parlaient anglais, mais toi, le français, allemand, luxembourgeois, c'était compliqué. Et j'ai commencé d'avoir peur, jusqu'à un point que c'était presque comme je m'étouffais. Vous savez ce qu'il faut faire à ce moment-là, quand tu as peur? Est-ce que ça t'arrive d'avoir peur, David? Oui, souvent, souvent. De nature, je suis craintif. Tu sais ce que tu fais avec la peur? Moi, je me suis mis à genoux et j'ai dit, Seigneur. Et tout d'un coup, et c'est rare dans ma vie que ça m'arrive, mais tout d'un coup, waouh! Le Seigneur était là d'une manière à part. Ce n'est pas rare qu'il soit là, mais c'est rare qu'il soit là comme ça. Et je ne peux pas te dire ce qui m'est arrivé. C'était une vision ou quoi, mais c'était comme si dans mon esprit, je voyais le vieux Jacob en train de dormir, de mourir. Et voilà, son fils Joseph vient avec ses deux fils, Manassé et Ephraïm. Joseph se mit sur le côté de son lit. Et Jacob, pardon. Et puis Joseph, il dit à son papa, « Papa, bénis mes garçons. Bénis mes garçons. » Jacob, il a mis la main, les mains sur les deux garçons. Et puis, il a dit, « Joseph, parce qu'il les a bénis, je te dis quelque chose. Si tu as d'autres enfants après ces deux-là, ils sont à toi, mais ces deux-là, ils sont à moi. » Et ce jour-là, ce qui s'est passé, c'était que le grand-père a adopté ses petits-fils et ils sont devenus ses fils. C'est pour cela qu'Israël a hérité le pays. Tu ne vois pas normalement le nom de Joseph, tu vois Manassé et Ephraïm. Parce que les petits-fils sont devenus des fils adoptifs parce que le grand-père les avait pris comme ses fils. Et Dieu m'a dit ce jour-là, il dit, David, j'ai pris tes enfants, ils sont à moi. Moi, je parle avec la perspective maintenant d'un papa. Ses enfants ont quitté le foyer depuis presque 20 ans maintenant, parce qu'ils sont partis assez jeunes, 18 ans. Ils ont eu une éducation au-delà de ce qu'ils auraient eu aux États-Unis. Je n'ai pas le temps pour entrer dans le détail. Une excellente école que nous ne pouvons pas payer, mais le Seigneur a fait un miracle. Et ils ont une éducation formidable. Pour moi, le plus précieux, tous les trois, ils aiment le Seigneur. Tous les trois, ils sont en train de travailler pour le Seigneur. Et ils font des petits-enfants le plus beau, le plus bel, le plus intelligent, plein de talents sur la terre. Ils me font penser à leur grand-père. Mais Dieu tient promesse. Mais mes amis, vous ne verrez jamais la promesse de Dieu si vous ne vous levez pas de vos plaintes, de vos jérémiades, de vos frustrations, de tout ça. Allez à Dieu et faites quelque chose. Que votre cœur soit en règle avec le Seigneur. Amen. Il y a des gens qui sont sauvés, mais le cœur n'est pas correct parce qu'ils ont des attitudes qui ne plaisent pas au Seigneur vis-à-vis de la famille, vis-à-vis de l'Église, vis-à-vis des autres personnes autour. Dieu veut changer ta vie chrétienne. Dieu veut que tu sortes de ce désert. Il veut que tu entres dans le pays qu'il t'a donné. Soyez méchants avec le péché. Écoute-moi, soyez méchants avec le péché. Il y en a qui caressent le péché. Oh, quel petit ver de terre. Il est beau, mon petit ver de terre. Ce n'est pas un ver de terre, c'est un petit vipère. Que plus tu le fais, plus il grandisse, il va te mordre. Et mon ami, soyez méchant avec le péché. Tuez-le de ta vie par la puissance du Seigneur. Je ne peux pas. Si. Tu es plus que vainqueur. Tu étais sous l'emprise de Satan. Tu étais sous l'emprise, le joug de péché. Mais maintenant, bien que ça nous arrive des fois de péché, nous ne sommes plus son prisonnier. Nous sommes capables de le vaincre. Si tu tombes, tu te relèves dans le nom de Jésus. Et si tu tombes 10 fois, tu te relèves 10 fois, ou 20 fois, ou 100 fois, mais tu vas vaincre le péché dans ta vie, parce que tu ne vas pas entrer pleinement dans ce que Dieu a pour toi, si tu ne le fais pas. Soyez audacieux suite à sa promesse. Et je termine avec ceci. Il y a une jeune femme, normalement elle va donner son témoignage dans la deuxième réunion, mais elle m'a dit un jour, et elle a eu une bataille terrible avec des mauvaises pensées, la tendance vers la dépression, le négatif, ça tourne. Et on en a un peu parlé. Et il m'a dit un jour, j'ai pris la décision que moi, je vais jusqu'au bout. Moi, je vais combattre, je vais faire ce qu'il faut pour faire partir ces pensées négatives et remplir ma pensée avec ce qu'il faut. Et il m'a dit l'autre jour, parce que je lui avais demandé la permission de raconter cette illustration, mais elle m'a dit, c'est différent maintenant. Mes amis, si vous faites le combat, vous pouvez vaincre les choses qui veulent vous vaincre. Vous pouvez. Il faut avoir une prise de conscience. Il faut le vouloir. Il ne faut pas accepter la vie comme elle est. Il ne faut pas seulement dire oui, elle est comme ça. Non, mes amis. Mettez-vous devant la parole de Dieu. Mettez la parole dans ton cœur. Mettez l'Esprit de Dieu dans ton cœur. Et puis décidez, moi je vais aller jusqu'au bout. Comme cette femme. Quand j'étais pasteur au Texas, il y avait une dame dans l'église. Et elle m'a dit un jour, oh, moi, je donnerais n'importe quoi pour pouvoir jouer de du piano. Et j'ai dit, attends, c'est pas vrai ça. Parce que cette dame-là, elle était casse-pied, mais elle n'était pas plus bête que normal. Il y a beaucoup de gens qui sont casse-pied, qui jouent du piano. Mais, excuse-moi, frère, c'est pas toi, je ne sais pas. Non. Mais elle aurait pu, ce qu'elle voulait, c'était, dans le nom de Jésus, pouf, jouer de la piano, du piano. Hey, arrêtez ça. Soyez des hommes, des femmes faites. Soyez des adultes en Christ. Soyez des guerriers qui sont capables de se tenir debout et dire, voilà ce qui dit la parole de Dieu. Je me nourris chaque jour de la parole de Dieu. Je me nourris de la prière et la communion fraternelle avec les frères et les sœurs. Moi, je vais vaincre cet ennemi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors voilà en conclusion. Je parle de deux personnes. D'abord, je parle aux chrétiens qui sont dans le désert. Vous vous êtes reconnus. Peut-être c'est un domaine qui vous empêche d'entrer dans la plénitude de Dieu. Mais ce matin, vous mettez une marque dans le désert et vous dites, c'est fini. Moi, j'en ai marre de tourner en rond. J'en ai assez de tourner en rond. Dans le nom de Jésus-Christ, je vais entrer dans la promesse de Dieu. Hein? L'équipe de louange revient maintenant. Et vous dites, David, je ne sais pas ce qu'il va falloir. Mais moi, je ne vais pas oublier ce message. Parce que là, si tu écoutes le message et tu sors et tu oublies ce que Dieu t'a dit ce matin, tu seras comme une personne qui se regarde dans le miroir, qui dit, oh là là, il faut que je me brosse les cheveux, parce qu'ils sont un peu partout. Et puis, tu sors, et toute la journée, tu as les cheveux bizarres, parce que tu as oublié comment sont tes cheveux. C'est exactement comme ça ta vie spirituelle. Si tu écoutes la parole de Dieu, et tu ne fais rien, par conséquent, ça ne te fait rien. En quelque sorte, c'est presque pire. C'est presque pire. N'oublie pas. J'aimerais bien. Et on va prier maintenant, s'il vous plaît. Baissez la tête et on va prier. Seigneur Jésus, touche nos cœurs. Seigneur, je suis certain que tu as parlé à beaucoup de cœurs ce matin. Mais Seigneur, si tu nous parles et nous ne répondons pas, c'est horrible. C'est même inutile. Je prie qu'on prenne des décisions suite à ce que tu leur as dit au cœur et que nous changeons au nom de Jésus. Alors, quand nous sommes toujours dans la prière, maintenant, combien d'entre vous, vous aimeriez bien lever la main et dire, David, moi je suis dans le désert, j'en ai marre de désert, j'en ai marre de tourner dans ce désert, moi je sors à partir d'aujourd'hui. Lèvez la main, on va prier dans Jésus. Amen, amen, merci, amen. Alléluia. Amen. Amen. Alors, vous pouvez baisser la main. Vous êtes là et vous dites, David, je ne suis pas encore sorti de l'esclavage. Je dis honnêtement, je ne suis pas Jésus. Mais j'en ai marre de l'esclavage. Ce matin, je me lève, je demande pardon au Seigneur Jésus-Christ. Je lui fais confiance pour me sauver parce qu'il est ressuscité. Je lui donne ma vie. Moi, je le fais. Lève la main. Si tu dis, moi, je sors de l'esclavage dans le nom du Seigneur Jésus-Christ ce matin. Amen. Est-ce qu'il y a des autres? Amen. Alors, l'équipe de louanges qui est tellement formidable va revenir maintenant. Chanter un chant. Mais vous, je ne veux pas que vous chantiez dans l'assistance. Je veux que vous écoutiez ou bien encore plus, que vous vous mettez debout. Vous levez les mains vers le Seigneur et que vous faites cette promesse au Seigneur, Seigneur Jésus-Christ, si tu me donnes la puissance, il le fera. C'est fini, tourner en rond. À partir d'aujourd'hui, j'entre dans le pays, s'il y a un combat, s'il y a une bagarre, mais avec ton aide, avec la force de ton esprit, moi je ferai ce qu'il faut pour sortir de ce désert. Si ça c'est vous, levez-vous pendant que l'équipe chante. On va tous se lever. On va tous se lever maintenant. Mais vraiment, si vous voulez lever les mains vers le ciel, dites, Seigneur, c'est de toi ma vie. Maintenant, c'est l'heure de victoire.
Dieu a une armée qui se lève pour lui obéir. Dieu a une armée qui se lève pour le servir. Peuple de Dieu, lève les mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre la bouche. Je veux parler. Dieu a une Dieu ouvre la bouche, Dieu veut.